Bonjour, je suis Olivier Aymon. Dans l'épisode précédent de Mars, la nouvelle Odyssée, nous avons parlé moteur, puissance, résistance. Parlons maintenant physique, psychique, bref, de nous. Enfin, de celles et ceux qui un jour grimperont à bord d'un vaisseau, direction la planète rouge. Un long, très long voyage que certains ont déjà simulé. Ah, forcément Mars pour vous ?
Pour moi, Mars, c'est un but de par la mission Mars 500. C'était vraiment le symbole, arriver sur Mars. Lorsqu'on avance dans notre vie, il y a des moments où on doit prendre des décisions. Et d'avoir cet objectif, ça permet d'accompagner, d'aider à avancer quand on a ce but qu'est Mars, par exemple. Je m'appelle Romain Charles, je suis ingénieur. Aujourd'hui, je travaille au MEDES, donc la médecine spatiale, et j'aide le CNES, l'agence spatiale française, à créer une structure qui s'appelle Spaceship FR, qui cherche à préparer le futur de l'exploration. Et il y a 10 ans, j'étais sélectionné par l'agence spatiale européenne pour simuler un voyage aller-retour vers la planète Mars. Donc j'ai vécu 520 jours dans 3 grands cylindres métalliques hermétiquement clos. Et le grand succès de Mars 500, c'est qu'on était 6 lorsqu'on est rentré et qu'on était toujours 6 lorsqu'on est sorti un an et demi plus tard et toujours à travailler efficacement ensemble.
Mars, la nouvelle Odyssée, épisode 6, un long voyage à imaginer.
Mars 500 n'a pas toujours été facile, mais dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Et du coup, pour moi, si on me demande aujourd'hui, tenez, signe ici pour aller sur Mars, je signe tout de suite à une condition. Il y a quelque chose que j'ai appris grâce à Mars 500, c'est qu'un voyage aller simple, pour moi, c'est impossible. Pour moi, il faut vraiment le retour, l'assurance du retour, pour avoir cette énergie, pour que si on a un obstacle, je me dise, bon, il y a quelque chose qui m'attend, je vais revenir voir toutes les personnes que j'aime, allez, on va trouver une solution, on va passer au travers. Et je ne pense pas qu'un voyage aller simple me permettrait d'avoir cet optimisme, cette énergie. Mais si c'est un voyage aller-retour, je signe, il n'y a pas de souci.
Parce qu'on parle quand même, et juste pour se donner un ordre d'idée, aujourd'hui, le séjour le plus long dans l'espace, il me semble que c'est 14 mois à bord de la station Mir ou la station spatiale, je ne sais plus.
C'était
en tout cas, c'est un cosmonaute.
Valery Polyakov, dans la station Mir, qui a passé 437 jours et 18 heures. Alors, j'ai une petite anecdote là-dessus, si vous voulez. En fait, en particulier dans le spatial soviétique à l'époque, il y avait une coutume. Lorsqu'un cosmonaute passait plus de temps que tous les autres cosmonautes avant, le précédent détenteur du record envoyait un petit message ou téléphonait pour dire « Félicitations, tu viens de battre mon record, c'est toi maintenant qui as passé le plus de temps dans l'espace. » Et pour Mars 500, lorsqu'on est arrivé à notre 438e jour, on a reçu une vidéo sur nos serveurs, une vidéo de Valery Polyakov qui nous disait « Bon voilà, on a cette petite tradition, alors bon, vous n'êtes pas dans l'espace, mais votre mission est très importante, donc voilà, je suis très heureux de vous remettre mon record d'avoir passé le plus de temps en confinement au moins. » Et donc ouais, on a pu recevoir des mots très sympas de Valery Polyakov pendant cette mission Mars 500.
Et donc lui, le record dans l'espace, avec quand même une différence avec ce voyage qu'on envisage vers Mars, c'est qu'il avait les yeux qu'il pouvait garder rivés sur la Terre. Mmh. La distance est évidemment totalement différente quand on envisage un voyage vers Mars. Ce n'est pas qu'un détail.
Ce n'est pas qu'un détail. Et c'est une grande question qu'on a encore aujourd'hui. C'est-à-dire que le voyage vers Mars, pour la première fois, on ne verra plus la Terre. Et donc, pour la partie Mars 500, nos modules étaient hermétiquement clos. On n'avait aucune fenêtre, donc on ne pouvait pas voir la Terre, mais on savait qu'on était sur Terre. Le ressenti était un peu différent, mais on savait qu'on était encore sur Terre. Donc, comment ça se passera pour les astronautes qui partiront vraiment vers Mars? La question reste posée.
Il y a un moment où vous êtes posé la question, d'ailleurs, est-ce que je suis toujours sur Terre ou pas?
On s'est posé la question, vraiment. On s'est assis lors d'un repas, on s'est posé les uns les autres la question, est-ce que vous vous sentez dans l'espace ou pas? Et c'est amusant parce que certains d'entre nous disaient, moi j'ai l'impression d'être dans l'espace. Et pour moi, vu qu'on était sur Terre, c'était une simulation, on avait la gravité, je disais, j'ai pas l'impression d'être dans l'espace. Par contre, il y avait un vrai ressenti d'isolation. J'avais l'impression que les modules de Mars 500 avaient été déplacés et mis au milieu d'un désert, en haut d'une montagne. Donc, ma raison savait très bien où j'étais, je me souvenais de tout ce qui gravitait autour, mais mon ressenti était vraiment d'un isolement, d'une distance énorme entre là où on se trouvait, nos modules, et là où se trouvait ce qui était avant autour.
Vous avez presque imaginé peut-être que quand la porte allait s'ouvrir, vous n'alliez pas avoir le même paysage que celui que vous aviez en rentrant.
Alors, c'est ça qui est difficile à expliquer, c'est que je ressentais ça, mais je savais que c'était pas vrai. Mais je pense que c'était bien, parce que cette expérience cherchait à comprendre les effets du confinement et au-delà de ça, peut-être un peu l'isolation. Donc d'avoir ce ressenti, j'espère en tout cas, donner des résultats un peu plus probants pour les scientifiques qui étudiaient nos réactions, qui étudiaient l'évolution de nos corps pendant ces 520 jours.
Bon, moi, quand je voyage, le plus loin, c'est quelques longues heures en avion. Je me dis, allez, je vais me charger une série ou je vais regarder un film, je vais dormir un peu, je vais manger. Mm-hmm. Et puis, ça sera fini. Comment on se prépare à passer 520 jours d'un voyage fictif, mais immobile, finalement? Vous dites quoi? Il faut que j'emmène des livres. Qu'est-ce que je vais faire? À un moment, il va falloir que je me détende. Ou tout était déjà très codifié ou très organisé?
Non, tout n'était pas très organisé. On avait, en fait, nos journées étaient divisées en 3-8, donc 8 heures de sommeil, 8 heures de travail et 8 heures de temps libre. Et le temps libre, on le remplissait avec ce qu'on voulait. On a su qu'on était sélectionné pour faire partie de l'équipage final 3 semaines, 1 mois avant de rentrer, avant de disparaître pour un an et demi. Du coup, pendant ce mois...
Cogiter pendant 3 semaines, 1 mois.
Ah bah oui, ça a été 3 semaines assez folles où il y avait tellement de choses qui se passaient en même temps. Parce qu'il y avait aussi... Voilà, on quittait la Terre, entre guillemets, pendant un an et demi, donc il fallait gérer tout ce qui fait la vie quotidienne, c'est-à-dire les appartements, le travail que j'ai dû quitter. Enfin voilà, il y a beaucoup de papiers à préparer. Et en même temps, il faut penser à mais qu'est-ce que je vais faire pendant ces un an et demi? Qu'est-ce que je me prépare à côté? Donc j'avais emmené quelques livres, vous savez tous les livres qu'on se dit bon un jour quand j'ai le temps je lirai ce livre.
Donc on emmène Guerre et Paix.
Une des révélations, un des livres que je m'étais longtemps dit il faudrait que je le lise, c'était L'histoire de l'art de Sir Ernest Gombrich et ça a été une vraie bonne découverte, j'ai vraiment dévoré ce livre. Mais voilà, c'est ce genre de choses qu'on prépare. Lorsqu'on devait préparer voilà, notre entrée dans les modules, on nous a dit « Vous avez le droit à une boîte à chaussures, comme les astronautes aujourd'hui. C'est la seule chose qu'ils peuvent emmener qui soit personnelle. » Et donc, je ne sais vraiment pas quoi mettre dedans. Et en fait, le jour où on devait mettre notre boîte à chaussures, entre guillemets, il n'y avait personne qui était là pour contrôler. Donc moi, je suis arrivé avec une très grosse boîte à chaussures. Et j'ai emmené le plus de choses. Et en fait, tout ce que ma petite sœur m'avait donné. Tiens, des feutres, du papier de couleur, des choses pour les arts créatifs. Et ça m'a servi plusieurs fois à remplir ce temps libre. Par exemple, pour Noël, on a créé un sapin, on a pris des cartons qu'on a découpés, on avait, grâce à ma petite sœur, un peu de peinture, et voilà, on a fait un beau sapin vert pour Noël.
Et vous étiez coordonnés d'une certaine manière, ceux qui allaient vivre cette expérience, en se disant « Moi, j'emmène des ciseaux, t'as qu'à prendre le scotch » ou vous n'aviez pas le droit?
On pouvait discuter, mais je dois avouer qu'on était tous pris un peu par ce tourbillon d'événements et on ne s'est pas vraiment coordonnés. Alors, je me suis assez bien coordonné avec l'autre Européen, donc Diego Urbina, et lui, il a réussi à télécharger la version texte de Wikipédia et ça a été énorme parce que c'était la seule chose qu'on avait pour, lorsqu'on se posait une question, pour trouver une réponse à part envoyer un message au centre de contrôle pour qu'eux cherchent, nous renvoient la réponse, ça prenait du temps. Des petites choses comme ça, ça a été fait un peu au dernier moment, donc il y aurait peut-être moyen d'y passer plus de temps, mais lorsque, de par mon expérience suivante, lorsque je travaillais au centre d'entraînement des astronautes à Cologne, je vois que pour les astronautes, c'est la même chose. Ils ont tellement de choses qui s'accumulent petit à petit qu'ils ont très peu de temps pour se préparer au moment où ils n'auront pas à travailler dans la station spatiale pendant les 6 mois de leur mission. Donc de ce côté-là, c'était assez réaliste.
520 jours, c'est long ?
Ça dépend. C'est long et c'est pas long à la fois. C'est vrai que pendant Mars 500, on vivait dans le présent. On regardait une semaine à l'avance et c'est tout. On avait notre planning avec toutes les expériences que l'on devait faire pour la semaine. Et on, de façon assez tacite, on ne s'intéressait pas à la globalité de la mission. Et du coup, un jour, plus un jour, plus un jour, au bout d'un 520, ça y est, la mission est terminée. Donc ça se passe assez bien. Mais il y a des moments où on nous a un peu obligés à regarder la mission dans sa globalité. Et c'est vrai que c'était pas les meilleures périodes. En tout cas, pour moi, ça m'a...
Donc, d'une certaine manière, à se projeter, à se dire, il reste 200 jours...
C'est ça. En fait, un an après être rentré dans les modules, j'ai reçu beaucoup de messages de ma famille, mes amis et de journalistes en particulier qui me disaient « Oh bravo, ça fait un an, continuez comme ça ». Et les journalistes me disaient « Racontez-nous un peu, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces un an et comment est-ce que vous voyez les 155 jours qui vous restent dans les modules ?» Et regarder tout ce qui s'est passé dans les modules pendant un an, c'est aussi voir tout ce qu'on n'a pas eu à l'extérieur pendant ces un an, tout ce qui s'est passé à l'extérieur. Donc c'est pas forcément agréable. Et 155 jours, c'est quand même 5 mois. Donc il restait encore pas mal de temps. J'avais un peu moins de patience, j'étais un peu plus grincheux et je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite qu'est-ce qui se passe. C'est seulement quelques semaines plus tard où je me suis rendu compte que on m'avait forcé à regarder la globalité de cette expérience Mars 500. Et je pense que c'est ça qui avait créé ce petit malaise en quelque sorte.
On rappelle, tout ça, ça se passe dans des modules qui font quoi ? 3 mètres de haut ? 10 mètres de long ?
Alors les modules, il faut imaginer 3 grands cylindres métalliques. Le plus grand, qui était le module de stockage des remplis d'étagères avec toute la nourriture, les vêtements, etc. Le plus important pour nous, c'était le module de vie qui avait à peu près la taille d'un bus. Il faut imaginer un bus dans lequel on avait 6 chambres, une salle de contrôle, une salle de bain, une cuisine et une salle, de détente. Et puis le troisième module était le plus petit, c'était le module médical qui était notre module de travail. Le plus grand faisait, si je me souviens bien, 5 mètres de diamètre, sachant qu'il était un petit peu coupé pour pouvoir marcher sur une surface plate. Au final, c'était assez grand. Je crois que si on prend la surface au sol, on avait à peu près 180 mètres carrés pour 6. Mais au bout d'un an et demi, on en connaissait tous les moindres recoins. Il n'y a pas de souci. À un moment, on a eu une panne du système de la circulation de l'eau. Et quelques litres sont allés sous le plancher. Et donc, on a dû aller loin sous le plancher pour s'assurer qu'il n'y avait pas de petites marques qui restaient pour éviter tous les problèmes de microbes ou je ne sais quoi. Bref, il a fallu se faufiler sous le plancher. C'est une vraie nouveauté, j'ai adoré. J'ai adoré découvrir les modules d'un angle différent.
Donc finalement, ce qui motive à un moment, c'est tout ce qui est hors routine.
Exactement. Tout ce qui est nouveau. Et donc, du coup, tout ce qui vient de l'extérieur prend une importance énorme. Je sais que vers la fin de cette mission, tout ce qui venait de l'extérieur, lorsqu'on recevait un journal, donc un fichier PDF avec un journal complet, habituellement, aujourd'hui, je regarde les titres et puis je lis les articles qui m'intéressent. Je lisais chaque article, je lisais tout. Je regardais les vidéos qu'on m'envoyait, je regardais tout. Les messages de mes proches, je les lisais 1, 2, 3, 10 fois, juste parce qu'ils venaient de l'extérieur, ils m'apportaient comme une bouffée d'air fraîche. Et c'est vrai, c'était vraiment important.
Vous étiez 6 ?
On était 6 dans notre équipage. C'est un équipage international avec donc 3 Russes, un Italo-Colombien, un Chinois et un Français.
Que des hommes.
Pour la sélection européenne, l'appel à candidats était ouvert à tout le monde. Et donc il y a eu quelques femmes, mais la dernière, a priori, a été recalée au moment du contrôle médical, qui était assez poussé. Par contre, lorsque la question a été posée à un des psychologues en charge de la mission du côté russe, il a dit que, il n'y a que des hommes, parce que ajouter un autre genre à cette expérience qui était déjà très complexe allait la rendre encore plus complexe et que ce n'était pas quelque chose qui était souhaitable. Le fait est qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'expériences de confinement qui sont réalisées tout autour du monde, que ce soit aux États-Unis, en Russie, en Europe aussi, dans une moindre mesure, en Chine. Et la plupart, si ce n'est tous les équipages qui font ces missions de confinement, sont mixtes. Donc, lorsqu'on imagine Mars, pour moi, ce sera un tel symbole que l'équipage devra représenter l'humanité dans sa globalité. Donc, il est clair et net, à mon avis, que l'équipage sera mixte.
À 6, dans une grosse boîte de conserve, pour le premier voyage vers Mars, vers une planète inconnue, sur laquelle on n'est jamais allé, même si on la connaît un peu, avec tous les risques liés à un vol d'essai, finalement. Il y a quand même, sur 500 jours, on a le temps à la fois de rigoler, de s'aimer, mais aussi de s'engueuler, voire au-delà d'avoir envie de taper sur son voisin, voire peut-être de le pousser par la porte.
C'est toute la difficulté de ce type de mission et de ce vers quoi les agences avancent aujourd'hui. Ils cherchent à aller plus loin dans l'exploration du système solaire. Le facteur humain reste la plus grande inconnue. C'est-à-dire que petit à petit, on commence à comprendre ce qui fonctionne à peu près, ce qui ne fonctionne pas à peu près, mais il n'y a jamais de certitude.
Mais vous, par exemple, vous aviez des tests psychologiques, on vous demandait...
On avait plein de tests psychologiques.
Donc, tu as déjà eu envie de tuer ton voisin ou
Les questions n'étaient pas aussi directes, mais on avait pas mal de questions qui s'intéressaient à notre psychologie. En fait, on avait une centaine d'expériences à réaliser qui, du coup, détaillaient cette grande question. Et les scientifiques pouvaient orienter un petit peu notre profil psychologique et pouvaient voir, le plus important, est-ce que ce profil évolue pendant ce confinement ? Est-ce que l'équipage qui fonctionnait bien au début, puisqu'on s'est quand même entraîné ensemble et ils nous ont choisis parce qu'on fonctionnait bien en groupe, est-ce que ce groupe est mis en danger pendant ce confinement ? Est-ce que des personnes évoluent trop et du coup s'éloignent du groupe ? Et pour Mars 500, la réponse était non, tout va bien.
Il n'y a pas eu de moment de tension particulier, il n'y a pas eu...
Il y a eu des moments de tension, mais la chance que l'on a eue, c'est que ces tensions n'ont jamais dégénéré en conflit. On parlait assez facilement les uns avec les autres, et on acceptait assez facilement les remarques des autres. Et donc ça a été vraiment notre chance, c'est qu'on n'a jamais eu de conflit pendant ces 520 jours.
Alors on imagine le jour où cet équipage de 6 personnes revient de Mars, parce que comme vous le disiez en introduction, l'idée c'est de revenir... Mmh. Le moment où la porte du vaisseau ou de la fusée, on verra bien à ce moment-là, s'ouvre, tout ce qu'ils ont à raconter, ce qu'il peut y avoir dans leur regard. Vous, c'était quoi cette sortie ? C'était une libération ? C'est « waouh, je l'ai fait » ou des trucs plus basiques, « j'ai envie d'un hamburger, je veux aller nager
». En sortant, on savait qu'il y aurait un comité d'accueil avec des journalistes et autres. Du coup... Sachant que j'allais devoir parler et que j'allais être le premier à parler aux journalistes, j'avais envie de dire quelque chose d'à peu près intelligent. Donc j'avais préparé un petit texte. J'avais même envoyé à l'ESA en disant « voilà, je voudrais dire ça, qu'est-ce que vous en pensez ?» Ils ont proposé quelques mots différents pour que ça fasse un peu plus anglais, parce que avec mon franglais, c'était pas top top. Du coup, je me suis dit « je vais l'apprendre et comme ça va être nickel. » Et impossible. J'arrivais juste pas à l'apprendre. J'avais trop de choses qui se passaient. Impossible. Et là, j'ai mon commandant qui me tape sur l'épaule et me dit « Allez, on sort. » Et donc, je sors et je vois littéralement un mur de gens en face de moi avec tous les journalistes au rez-de-chaussée, famille, amis sur les deux balcons au-dessus qui appellent notre nom et on sort et c'est génial. Et là, je sais que je vais devoir parler et je ne connais pas le texte. Je ne sais pas ce que je vais dire. Et du coup, je me suis mis une telle pression que j'avais les jambes en coton. Et là, mon commandant me regarde, me dit « Vas-y, c'est ton tour ». Et donc, j'avance vers le micro et je dis un truc. C'était pas top, c'était pas catastrophique, mais c'était pas du tout ce que j'avais prévu. Et c'est seulement à partir de ce moment-là, quand je me suis éloigné de cette pression médiatique, que... Ça a été génial. Ça a été génial de revoir toutes ces choses qu'on n'avait pas vues. On redécouvrait toutes ces petites choses qu'on n'imaginait même pas avoir oubliées. Par exemple, un chien. Voilà, on n'a pas vu un chien pendant un an et demi. Oh, regardez un chien. La première fois où on a eu un repas avec des produits frais, c'était trop bon. C'était une explosion de saveurs. Revoir nos proches, pouvoir les toucher, les embrasser, c'était une journée magique, géniale. Mais avec quand même une bonne pression juste à la sortie des modules. Enfin, j'ai du mal à imaginer un retour de la planète Mars après avoir vécu toutes ces choses. Quel type d'explosion de saveurs, de senteurs, de toutes ces choses les premiers astronautes qui reviendront auront. Mais je pense que ce sera intense, ça c'est sûr.
Merci beaucoup Romain Charles.
Merci.
Nous avons donc envisagé le vaisseau et réfléchi à l'équipage pour ce périlleux voyage humain vers Mars. Alors allons-y, posons-nous dessus et demandons-nous ce que nous allons y faire. Ce sera dans le prochain épisode de Mars, la nouvelle Odyssée.